Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur L'Onde Curieuse, le magazine d'information de Fréquence 7. Aujourd'hui, on s'interroge sur la langue française. Si je vous parle d'orthographe, qu'est-ce que ça vous évoque ? Pour certains, c'est un art majeur et pour d'autres, c'est une atroce dictature. Parfois illogique, souvent alambiquée, l'orthographe française est un vrai casse-tête. On en parle dans un instant, mais tout de suite, quelques informations locales et culturelles. La vallée du Rhône est en alerte orange pour la pollution depuis hier. La préfecture a mis en place des mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre sur le bassin d'air de la vallée du Rhône. Ça concerne principalement les communes du Teil, Rochemort, Viviers et l'agglomération de Privas jusqu'au col de l'Escrinet. Pour l'industrie, interdiction de mener des opérations polluantes. En agriculture, interdiction de l'écobuage et d'autres brûlis. Les particuliers, eux, doivent éviter le chauffage au bois. Les vitesses de circulation sont abaissées pour tout le monde, jusqu'à nouvel ordre de la préfecture. Le Secours populaire d'Aubenas s'engage pour aider les victimes du séisme impressionnant qui a frappé la Syrie et la Turquie la semaine dernière. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Ce matin, on totalisait près de 35 000 victimes, principalement en Turquie, puisque côté syrien, les chiffres restent incertains, car le président Bachar el-Assad n'a toujours pas libéré l'accès aux humanitaires à des régions considérées rebelles au nord-ouest du pays. Le Secours populaire offre un soutien logistique, matériel et financier en partenariat avec des ONG locales. Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer vos dons sur le site du Secours populaire, dons au pluriel, .secourspopulaire.fr. Et côté culture, qu'est-ce qui s'annonce donc à l'horizon de cette semaine ? Alors déjà, cette fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche, le salon Prime Vert ouvre ses portes à Lyon Eurexpo. Durant 3 jours, les halles d'Eurexpo seront remplies par des conférences, des projections, des ateliers et une foultitude de stands d'associations, d'artisans et d'entreprises sur le thème des transitions. Donc la transition énergétique, bien sûr, transition vers le bien-être social et individuel, transition écologique. Découvrez une foule de clés pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui et nous attaquer à bâtir le monde de demain. Le salon accueille de nombreux exposants, notamment Fréquence 7. Je serai présent sur le salon pour offrir mon micro à différents intervenants. Rendez-vous dans l'onde curieuse de la semaine prochaine avec les comptes rendus de ce week-end. Demain, mardi, c'est la Saint-Valentin et qu'on le veuille ou non, ça peut être une belle occasion pour faire un truc avec quelqu'un qu'on aime. Parmi les attractions spéciales de ce mardi 14, on notera que l'Avenne d'Orniac vous propose de passer sa soirée de Saint-Valentin à 121 mètres sous terre pour une dégustation de vins ardéchois au milieu des stalactites, des stalagmites et de multiples autres concrétions rocheuses au milieu d'un éclairage doux. Ça a l'air franchement chouette. La soirée coûte 29€ par personne et c'est à 18h. Vous trouverez plus d'informations sur le site de l'Avenne d'Orniac. Plus tard, vendredi 17 à Mirabel, on vous invite à découvrir Dedans Dehors, une pièce de théâtre pas comme les autres qui parle de prison. Deux femmes en scène, Maye Moreno et Natasha Lopiet. Maye Moreno est une biologiste mexicaine qui a passé 16 ans dans la plus grande prison du Mexique. Là-bas, elle a rencontré Natasha Lopiet, une Française, emprisonnée pendant 10 ans. Maye est une auteure d'une soixantaine de pièces de théâtre jouées principalement en milieu carcéral. La pièce Dedans Dehors a été écrite par Maye Moreno un mois avant sa libération et elle apparaît comme une nécessité pour partager avec le public combien la sortie de prison est difficile et seule la possibilité de regarder à l'intérieur de soi-même permet de conserver l'espace de liberté nécessaire pour survivre. C'est une pièce bien particulière, ça se déroule à Mirabel, à l'Art Café avec un K, en présence donc du coup de Maye et Natacha qui sont aujourd'hui libres de leur mouvement, qui racontent leur expérience, qui la jouent. Elle vous invite à apprécier chaque instant la liberté, l'amour et à ne pas oublier de choyer la boussole de votre cœur qui est la véritable indication du bon chemin à suivre. Donc rendez-vous à Mirabel vendredi à 20h, l'entrée coûte 10€ et demain dans l'onde curieuse nous recevrons Zarina Khan qui est la fondatrice de l'Arc Café, notamment au milieu de beaucoup d'autres cordes à son arc. Samedi soir le 18, donc le Sandinista, le café-concert au centre de Rosières, accueille l'artiste Dédé Virgule pour un concert seul en scène avec un micro, une guitare et une voix qui porte des textes à la fois engagés et poétiques. Si vous ne connaissez pas encore Dédé Virgule, l'entrée est libre au Sandinista de Rosières. Vous trouverez des pizzas et des crêpes sur place, ainsi que tout un bar, bien sûr. La soirée commence à 20h. On continue en musique, cette émission, avec un morceau de rap. Pour une fois, un bel exercice de langue française et de poésie, mené de main de maître par Lucio Bukowski et Anton Serra, les deux Lyonnais piliers du collectif de l'Animalerie.
Je préfère un petit chalet, un poêle à bois qu'une vie de Burj Khalifa. Et même au 130e étage de la Burj Khalifa, je gravirai les monts sans sautis. Bande de feignasses, bientôt y'aura des escalators à Cannes. Je combattrai mes peurs, le vertige d'être seul, de mes propres mains, comme Alain Robert. La vie au bout des doigts, toucher un bout d'étoile et risquer de finir fracassé sur un enrobé. Je vous laisse vos buildings, vos gratte-ciels, vos fanfreluches, vos bracelets. J'espère juste coudoyer des francs frelus. Je préfère une poignée de main que la soie d'une épée. Rompre le pain sous la voie lactée d'un été. À des chromosomes à l'air libre. J'apprends mieux des hommes que de leurs livres. Débranche ta petite lucarne, la vie c'est tellement vrai. Un billet de train, un aller simple, ailleurs c'est tellement vrai. On a peu de discussion de la météo au sport. Je m'en bats les couilles si Manchester va revenir au score. J'adoucirai mon attitude à 1000 mètres d'altitude. Voir mon petit pousser bien loin d'un tas de bitume. Et la moiteur d'un studio à part Dieu. En centre-ville, je crains tout le monde à part Dieu. Je crois que je suis plus fait pour les feux rouges, les fanfarons. Aux airs farouches, les fanfares et le barou. Je pars où je croise les doigts pour que mon aigreur ne prenne pas le dessus. Risquer de perdre la tête comme cette lèvre que je décapsule. Si je te dis à la revoyure, dis-toi bien que c'est pas sûr, non. Mon mur porteur a pris pas mal de coups de massue. Un spectacle opinable, comme un saut d'ange dans le vide. Des choses étranges dans le vide, une fin de journée orange sanguine. Alors je m'accroche à ce que je peux, mes rêves ne lâcheront jamais prise, quoi que ça me coûte. Sur un cadeau, ne colle jamais le prix. J'accepte ce que la vie m'offre. Ça fera une pierre de moi en plus que tu morfles. Et suis ta morve d'un revers de main. On verra bien demain. Après tout, nous sommes en vie. Pourquoi ce sérieux? Pourquoi je parle tout seul à ce demi? À moitié plein, à moitié vide. J'évite évidemment me faire happer par mes démons. Mais jusque-là, je suis trop lent. Escalade de violence. La vie n'est qu'une paroi abrupte. Pas mal de potes se sont évanouis dans la brume. Y'a plus de réseau quand tu t'approches la galaxie d'Andromède. Et c'est bien mieux que vous qui captez de chiasser dans le tromé. Mais laissez-moi rejoindre mon petit refuge. Un télésiège, un tire-fesse, on fait partie de ceux qui refusent. Vos soirées hype, sans goût comme des paquets de champs. Vos coupettes de champs pour une cueillette de champs. Et un soleil couchant, le choix est vite fait. Fond de whisky, un peu de ski de fond que je traîne comme un husky. Toutes les légendes du Bigfoot, l'oxygène est si rare. Pour une vue à couper le souffle, je croyais éternel. Mais tout à coup, mon stalactite fond. À chacun son Everest, je te laisse en centre-ville. Là où aucun poison n'est frais, là où aucun poisson n'est vrai. J'ai vu encore hier descendre, là où ils se bouffent entre eux à la station. Cordière descendre. Je te résume ce que les types font. S'écartant du sentier de terrain, escarpé sous escarpins. Opéra vertical, en fait je préfère le sommeil. Je sais après toutes ces chaînes, là où la haine atteint des sommets. Vinyle de Balavoine devant mon poêle à bois. Non, ça moi les deux la poêle à boire. Un petit gaca de la coigne et de la poigne. Je continuerai mon ascension sans vous. Juste en petit comité, je goûterai aux sensations sans nom. Ok, c'est bon quand les choses glissent sur la tyrolienne. Comme faire skier sa paume de main sur des jolis reliefs. Le strict minimum, une laine polaire, un fait-tout. Une paire de raquettes, un panneau solaire, un album photo. Tout le contraire de la silhouette d'un petit homme très mince. La sapinette pour fuir les symptômes d'un delirium très mince. Le monde s'accroche tenu par qu'une phalange. Des chants, vu que les prix grimpent comme Patrick. Et de l'ingé, Anton Lucho Bukowski, un départ d'avalanche. On rappe quand ça nous chante, en fait on se fout du studio et de l'ingé. Voilà les conséquences, quand deux montagnes se rencontrent. C'est bon j'arrête, j'ai pris une tête comme ça, t'sais le peur à sa rencontre. Thomas tes projectiles, puis au fait, on s'est pris pour qui? Je rêve d'autre chose que de la musique, c'est pas mon projet de vie. Allez salut, je me mets au vert, tu me trouveras sur les hauteurs. Tu dénivelé, une rivière, il en faut peu. Pour un rêveur, face à nos peurs, y'a tout à refaire. En théorie, c'est pas le fait de tomber, mais de risquer de sauter qui me terrorise. À la recherche du temps perdu, je n'ai goûté qu'à une madeleine rassis. Depuis je traverse des plaines avec des peines par-ci. Un jour je trouverai des réponses comme Peter Falk. Sans brailler des chansons d'amour sur fond de guitare folk. Que dire de plus à part que je me cherche moins. Du coup je me connais mieux, mon oiseau bleu se perche loin. J'ai brisé les fenêtres mais je voulais pas te couper. Désolé pour les éclats de verre dans chaque couplet.
Merci aux proches et à mon single malt. Je serai jamais des têtes d'affiche qui sortent des singles fades, prêts à disparaître comme Yukio Mishima, un suicidaire en centre-ville d'Hiroshima. Je n'ai que des dialogues creux avec des murs muets, et je n'attends qu'un signe comme un futur curé. Je compte les heures en attendant que tout saute, pratique un art naïf et signe Henri Rousseau. Grande bière belge, fraîche, baignée de manioc, relire Mallarmé sur fond de menu et baroque. Pense que la forme des nuages est un prétexte, un storyboard divin pour nous faire couper le reste. L'œil malicieux de la brune station Croix-Rousse, 6h44, un lundi matin d'humeur farouche. Allume une cigarette menthol imaginaire, le temps de la fumée je connaîtrai par cœur Apollinaire. Tous daltoniens, paraît qu'on rêve en sépia. Mec, ne fais pas tes lacets et affranchis tes pas, se trancher les veines au rasoir d'Occam, en attendant les soldes sur quelques âmes d'occasion. La vérité peut bien aller se faire voir ailleurs, on a chacun la nôtre ici et on est bagarreur. Va niquer ta mère, n'est qu'un poncif oedipien. Je sais frère, je dis rien mais je le dis bien. Triste, cette manière de digérer nos vies, plutôt que goûter au bonheur on allégeait nos rires. Y'a que les fous pour oser viser l'hégémonie, pour mieux qu'elle touche au but, on a piégé nos rimes. Les remords s'achètent-ils dans des boutiques souvenirs, sèment des cailloux pour être sûr de ne jamais revenir. Me raccroche à l'écriture, je ne compte que sur mes doigts, un ange déchu ne tombe que sur des toits. Notre aventure commence à chaque seconde de plus, tout à refaire comme un vieux qui rate le bus. Et c'est la vie et c'est tant mieux, et c'est tant pis pour l'abruti qui ne sait qu'être en vieux. Boulot métropolitain et quelques lignes de Verne, un peu de studio et quelques signes de peine, que l'on combat avec des instants de grâce, tout en évitant les instants de crasse. Et je me sens bien comme après l'amour, le soleil sur mon visage, l'orage a pris la mouche. Nos espoirs s'endorment là où on les pose, je suis en grève donc me fous du train où vont les choses. Soyons clairs, je n'ai même pas d'avis précis, à part la lutte intérieure le reste se déprécie. Puisque le chemin est interminable, parcours le yiking dans un bar minable, tout égaré dans une guerre d'hoplites. Je voudrais être héros dans un Jean-Pierre Mocky, me souviens d'être vivant lorsque je fous la terre, m'entoure d'évidence pour qu'ils me foutent la paix. J'ai mes passages à vide comme un Nietzsche 1, j'essaye de me relever puis je vis ces riens, qui font de la vie un morceau de miracle, qui font de l'ennui un morceau de mirage. On avance toujours comme on peut, sache que les larmes n'ont jamais rien d'honteux. Nos solitudes peuplées demeurent irréductibles, sourire à l'avenir c'est être indestructible. Et il y aura des moments noirs, cette sensation de perdre tout espoir, juste du vide de l'autre côté de la porte. Seul face au néant faudra trouver la force et rebâtir une existence de mieux. Garder ses souvenirs comme une présence de Dieu. Une larme rejetée, c'est un rire atteint. Y penser chaque jour et puis ça ira bien.
Voilà, c'était Lucio Bukowski et Anton Serra pour Pinacle sur une prod d'Austère Lapoisse. L'art de manier la langue et les idées. On aime ça à Fréquence 7. Les complexités et la musicalité de la langue française. Mais quid de l'orthographe ? Est-ce qu'on peut être poète, scientifique ou simplement écrire une lettre de motivation pour un emploi si on est mauvais en orthographe ? Alors j'ai découvert deux linguistes belges qui nous présentent maintenant leur vision de l'orthographe française.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je m'appelle Arnaud Hout et je suis professeur de français à l'Institut Don Bosco en Belgique.
Je m'appelle Jérôme Piron, je suis professeur de philosophie dans la même école.
Alors on a tous les deux fait des études de linguistique et un jour au cours de ces études on est tombé sur une citation.
Est-ce que vous surveillez votre orthographe ? Est-ce que vous surveillez l'orthographe des autres ?
Alors, il faut quand même bien reconnaître une chose, c'est qu'en français, on est particulièrement peu exigeant avec l'orthographe.
On ne parle pas de votre orthographe, ni de la nôtre d'ailleurs.
Ni même de celle de Kevin, notre régisseur, qui a une orthographe bien à lui. Non, en français, on est particulièrement peu exigeant avec l'orthographe elle-même.
Oui, s'il arrive qu'on juge votre orthographe, on ne juge pratiquement jamais l'orthographe elle-même.
Alors attention, il ne s'agit pas ici de juger la langue, mais bien son orthographe. Souvent, on a tendance à confondre l'orthographe et la langue elle-même. Mais l'orthographe, c'est pas la langue. L'orthographe, c'est l'écriture de la langue. Et c'est même pas l'écriture en termes de style ou de qualité de phrase. En fait, c'est le code graphique qui permet de transmettre, donc de retranscrire la langue orale.
C'est un petit peu comme les partitions qui sont au service de la musique.
L'orthographe n'est qu'un outil au service de la langue.
Alors, si l'orthographe est un outil, on s'est simplement posé une question avec Arnaud. Est-ce que c'est un bon outil ? Prenons par exemple le son « s ».
Comme dans « régisseur ».
Comment peut-on écrire ce son en français ? On peut l'écrire « s », « 2 s », « c », « cc dit », « sc » comme dans « science », « t », les finales en « sion ». On peut l'écrire « x » dans « 10 » ou « 6 ».
Bruxelles.
On peut l'écrire Z dans Quartz.
Ou Aztec.
On peut l'écrire TH dans Forsythia. On peut l'écrire STH dans ISM ou ASM. On peut l'écrire 2C dans Succion. Et on peut même l'écrire SCCDI. Dans Il acquiesça.
Alors, maintenant, si vous voyez la lettre S écrite, comment est-ce qu'elle se prononce ? Soit S, soit Z, entre deux voyelles, soit pas, muette.
Donc, ça fait un son, 12 manières de l'écrire, une lettre, 3 façons de la prononcer.
En turc, l'orthographe est parfaitement phonétique. Une lettre, un son, une lettre. Mayonnaise. Saucisse.
Encore un. Donc, en turc, quand vous entendez un mot pour la première fois, vous savez automatiquement comment il s'écrit. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres langues, comme le bulgare, le finnois, le serbe, le roumain. Et c'est pratiquement le cas du néerlandais, de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand ou du russe.
Comparons à présent avec le français. En français, si on inventait un mot qui n'existe pas, comme le mot « créfission », qu'on a inventé avec Jérôme.
Créfission.
De combien de manières différentes pourrait-on écrire ce nouveau mot, créfission, en français ? Alors, pour répondre à cette question, Kevin a écrit un petit programme, un algorithme qui permet de calculer toutes les orthographes possibles du mot créfission en français. Kevin ?
Voilà, au total, il existe 240 manières différentes d'écrire le mot « créfission » en français.
On se demande souvent comment respecter l'orthographe. Mais l'orthographe elle-même est-elle respectable ? En français, on écrit le mot « bruit », le mot « édit » ou le mot « crédit » avec « t » pour faire bruiter, éditer ou créditer, mais pas « abri ».
On écrit « dix » avec un « x » qu'on prononce « s », alors qu'on écrit une dizaine avec un « z ». Et un dixième qu'on écrit « x » mais qu'on prononce « z ».
Employé avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand celui-ci le précède, les crêpes que j'ai mangées, ES. Par contre, quand le complément suit le participe, il reste invariable, j'ai mangé et les crêpes. Alors pourquoi ? Pourquoi avant, mais pas après ? Au Moyen Âge, les moines ont des conditions de travail difficiles. Ils travaillent dans des monastères mal chauffés, mal éclairés, avec des plumes d'animaux, souvent sous la dictée. Quand le moine écrivait, par exemple,
les pieds que Jésus a lavés.
Ben, un simple regard vers la gauche permet d'identifier ce que Jésus a lavé. Il a lavé quoi ? Les pieds, donc le moine accorde. Pas de problème. Par contre, quand le moine écrivait
« Jésus a lavé
ben, », il se dit « Jésus a lavé quoi ?» Je sais pas, je vais attendre. Ça va probablement venir dans la suite du texte.
Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer sur les bords du lac de Tibériade, et patati et patata, les pieds.
Voilà. À tous les coups, quand le moine est arrivé à les pieds, il a oublié qu'il avait un participe à accorder. Ou alors il n'a plus la place pour écrire la lettre, parce qu'au Moyen-Âge, les mots sont souvent attachés les uns aux autres. Et c'est de l'observation de cet oubli, donc de cette erreur, particulièrement fréquente dans les manuscrits du Moyen-Âge, qu'on a tiré la règle. Voilà pourquoi avant, mais pas après.
Alors à l'école, les enfants se demandent pourquoi. Pourquoi avant et pas après? Pourquoi un X?
Pourquoi pas T à abri?
Mais quand les enfants demandent pourquoi, on leur explique comment. Comment on écrit ou comment on accorde. Pourquoi est-ce que l'esprit critique s'arrête au seuil de l'orthographe? Eh bien, c'est parce qu'on a tous appris à ne plus se demander pourquoi.
Alors pourquoi l'orthographe du français est-elle si compliquée? Parce qu'en réalité, elle ne tombe pas comme ça un jour du ciel toute faite. Elle a une histoire.
Avant le XVIIe siècle, tout le monde écrit comme il veut. Montaigne ou Rabelais avaient leur propre orthographe qui variait d'ailleurs d'un manuscrit à l'autre ou d'un imprimeur à l'autre.
Molière, lui-même, dans une des toutes premières éditions du Misanthrope, écrivait Misanthrope sans H. D'ailleurs, Molière écrivait orthographe sans H. En fait, aujourd'hui, plus personne ne lit Molière dans l'orthographe de Molière. Elle a été adaptée au fil des rééditions sans que cela ne change absolument rien à son œuvre. Donc il ne faut pas confondre la langue de Molière et son orthographe.
Alors, d'où vient cette obsession contemporaine pour l'orthographe? Au XVIIe siècle, on centralise l'État. Et Richelieu réalise que la langue est un pouvoir. Il crée alors l'Académie française. L'Académie aura pour mission de rédiger un dictionnaire pour fixer la norme.
En réalité, aujourd'hui, l'Académie française est une fausse référence. Il n'y a pas de linguiste à l'Académie française. C'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de mécanicien au contrôle technique.
Non, académicien est un titre honorifique, pas scientifique. Il ne suffit pas d'enfiler un habit vert pour devenir grammairien.
En fait, dès l'origine, au XVIIe siècle, l'Académie va surtout faire de la norme la marque de l'appartenance à la bonne société, le bon usage.
Oui, en même temps, à l'époque, pas grand monde n'écrit. Et il faut vraiment attendre le XIXe siècle pour que l'orthographe devienne une norme incontournable. C'est la bourgeoisie montante qui va donner à l'orthographe ses lettres de noblesse. Elle va revendiquer une orthographe délibérément compliqué. L'Académie française va d'ailleurs introduire dans son dictionnaire de 1835 toute une série de consonnes doubles, de consonnes étymologiques qui n'existaient pas auparavant.
Oui, et surtout, on va l'imposer à tous. De plus en plus d'enfants vont à l'école et l'orthographe devient le principal critère pour sélectionner les instituteurs. Et puis tous les concours d'accès à la fonction publique passent par une dictée.
Oui, c'est aussi l'époque de l'avènement des nationalismes. Et on fait de la langue un enjeu identitaire. On veut un français, le même pour tous, unique et indivisible à l'image de la République, une et indivisible. L'orthographe comme ciment de la nation.
Et depuis, à chaque fois qu'on propose de modifier l'orthographe, ça provoque parfois quelques réticences. Souvent, essentiellement, parce qu'on a le sentiment qu'on va s'attaquer à un héritage. Si on prend les consonnes étymologiques, qui viennent du latin et du grec, les TH, les PH, comme dans philosophe, par exemple, y toucher, ce serait un peu comme s'en prendre au patrimoine, d'une certaine manière, se couper d'une partie de l'histoire de la langue française. Mais cette histoire est largement fantasmée. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a conservé ou introduit uniquement les consonnes étymologiques issues du latin et du grec ? Bah parce que ça fait classe. Parce qu'on aimerait croire que le français ne descend que de l'Antiquité. Mais en réalité, on a évacué sans hésiter toutes les consonnes étymologiques issues des langues germaniques, de l'arabe, de l'italien. Rien que ces trois langues-là, c'est déjà 35% de tous les mots qu'on a empruntés en français.
Si on voulait vraiment respecter l'étymologie, pourquoi pas ? Mais dans ce cas, on devrait écrire par exemple le mot « style » avec un « i ». Parce qu'on l'a emprunté au latin « stylus », on ne l'a pas emprunté au grec. Par contre, il y a un mot qu'on a emprunté au grec, c'est le mot « économie ». Donc pour respecter son origine, on devrait l'écrire comme « fœtus ».
Ou encore le mot « fantôme », qui vient aussi du grec « fantasma ».
Et puis, est-ce qu'on peut sérieusement accuser les Italiens ou les Espagnols de souffrir d'un déficit culturel ? Parce qu'en italien, on écrit par exemple « filosofo » avec des « f ». Depuis toujours. Et ça n'a quand même jamais empêché les Italiens de faire de l'étymologie, de retrouver les origines philo et sophia.
Alors parfois, certains donnent aussi à l'orthographe une dimension esthétique. En effet, on peut trouver que c'est beau parce que c'est compliqué. On peut appeler toutes les absurdités de l'orthographe des subtilités et être fier de cette spécificité de la langue française. Mais si on a le droit de trouver qu'une forme est belle et d'avoir envie de la garder, alors on a le droit de la trouver laide.
Pourquoi les mots du dictionnaire devraient-ils tous être beaux ?
À la rigueur, on pourrait même envisager de les rendre encore plus beaux. Le collège de pataphysique, Boris Vian, Alfred Jarry, avait imaginé ce qu'ils appelaient une orthographe d'apparat. Alors, qu'est-ce que c'est une orthographe d'apparat ? Pour vous l'expliquer, Kevin nous a programmé ici une petite application qui est un module de reconnaissance vocale en orthographe d'apparat, que voici. Et donc, dans cette orthographe, par exemple, le son
« A »
s'écrit comme dans le mot « doigt ». Comme dans logorée ou diarrhée.
Oh.
Capharnaüm. Cherchez pas, il n'y en a qu'un.
Deux.
Amygdale. Tu peux faire un truc un peu plus long ?
Projet d'orthographe d'apparat. Alors, il existe encore une raison de défendre une orthographe compliquée, le sens de l'effort. Comme c'est compliqué, c'est exigeant, et cette exigence apprend à nos enfants à se dépasser. Les gens ont l'impression que si on simplifie, on va faire moins d'efforts. Mais on ne va pas faire moins, on va faire mieux.
Évidemment, c'est difficile de dire à ceux qui ont souffert qu'ils ont souffert pour rien.
Le temps de mémorisation mécanique d'exception annonée, pou, hibou, caillou, tout ce temps pourrait être converti en temps de pratique, de découverte, de réflexion, de littérature ou d'histoire de la langue. Donc en un sens, la simplification constitue bien un nivellement par le haut.
Alors la question de l'orthographe touche aussi celle de l'accès à l'emploi. Dans ces cas-là, aujourd'hui, on sait ce que coûte une faute d'orthographe. Et puis vous imaginez si ce n'est pas votre langue maternelle, ou si vous êtes dyslexique.
On emploie aussi l'orthographe pour disqualifier une pensée. Sur Internet, par exemple, on voit souvent des commentaires du genre « Va d'abord soigner cette orthographe et après tu te permettras de donner ton avis ».
Donc on empêche quelqu'un de s'exprimer à cause de son orthographe. Et donc on est bien face à une forme de discrimination. Que tout le monde trouve légitime.
Même ceux qui en sont victimes la trouvent légitime. Une sorte de syndrome de Stockholm. Et tout ça n'est possible que si cette orthographe est sacrée. Le grévis, la grammaire, devient la Bible. Tout ce qui s'y trouve, c'est parole d'évangile.
Si c'est dans Becherel, ainsi soit-il.
Simplifier l'orthographe, ce serait appauvrir la langue. Donc ça veut dire lui faire perdre de la valeur. Mais de quelle valeur est-ce qu'on parle ? On ne parle pas de la valeur de l'orthographe, on parle de valeur tout court.
Et si l'orthographe française était un dogme ? Quand vous faites une faute, on ne juge pas votre orthographe. On vous juge, vous, sur base de votre orthographe.
En 1694, dans les cahiers préparatoires du tout premier dictionnaire de l'Académie française, il est écrit « L'orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. »
Merci.
Alors moi, cette conférence m'a bouleversé. J'adore l'orthographe. Je suis plutôt de l'école de ceux qui trouvent que c'est à la fois esthétique et intéressant. C'est un art. Écoutez, voilà, je change d'avis. J'ai découvert que c'était à la fois un outil d'oppression et de domination. Et donc, je deviens vachement plus coulant avec l'orthographe des uns et des autres. C'est la fin de ce magazine de l'Onde Curieuse pour ce lundi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très agréable journée et on se retrouve demain pour un nouveau magazine à midi. Salut et bonne journée.